As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Nous sommes vendredi, le 10 mars, je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Bonjour mon ami.
Salut. Oui, j'ai très hâte que tout le monde écoute ce qu'on a à offrir aujourd'hui. On a un invité spécial au podcast. Nul autre que Alex Belzile, qui vient de marquer un but dans un troisième match de suite dans la Ligue nationale de hockey, qui est quand même quelque chose pour un gars qui a passé beaucoup de temps à attendre son shot, son opportunité. Mm. Le voilà, une douzaine de blessés chez le Canadien ouvre une porte, puis il est en train de bâtir quelque chose de quand même assez intéressant.
Oui, absolument. Mais c'est... Tu sais, à l'heure actuelle, il m'apparaît que chez le Canadien, il y a deux histoires qui se distinguent du reste, là. Raphaël Harvey-Pinard, puis Alex Belzile. Harvey-Pinard, de son côté, m'apparaît démontrer soir après soir que ce gars-là appartient à la Ligue nationale. Il n'est absolument pas complexé dans sa façon de jouer. J'ai l'impression que Belzile va avoir un petit plus. Il va avoir plus à faire pour démontrer qu'il a sa place, ne serait-ce qu'à cause de l'âge, du caractère atypique de son parcours. Mais depuis qu'il est arrivé, au lieu de se faire rattraper par le calibre, on dirait qu'il s'améliore de match en match, il est capable d'avoir un impact sur les rencontres. Puis c'est tellement une bonne histoire, c'est tellement une situation inspirante. Puis on va avoir l'occasion, vous allez avoir l'occasion durant notre entretien avec Alex, de pouvoir comprendre un peu mieux son parcours. C'est une histoire qu'on aura entendue par bribes à gauche, à droite, mais là, on a eu le temps vraiment de s'asseoir avec lui, puis de pouvoir explorer diverses facettes, justement, de son cheminement qui l'a mené à la Ligue nationale. Puis c'est un gars qui, même si en ce moment, connaît ses meilleurs moments en carrière, puis il aurait tout à fait le droit de vouloir se pincer à tous les jours pour croire qu'il rêve pas, reste très, très terre-à-terre puis très sobre par rapport à ce qui lui arrive en ce moment.
Oui, alors honnêtement, sans plus tarder, je pense que l'entretien avec Alex, il était très généreux avec son temps. et nous a parlé pendant longtemps. Alors, je pense qu'on devrait aller direct à notre entretien avec Eric Belzile dans le vestiaire du Canadien vendredi après l'entraînement.
Alors, on est en compagnie d'Alex Belzile. Merci de te joindre à nous sur notre podcast. C'est bien apprécié.
Ça fait plaisir.
Écoute, je vais commencer en te demandant, là, t'es sur une séquence fulgurante de début dans trois matchs de suite. Évidemment, c'est probablement la plus belle opportunité que tu as eue jusqu'à maintenant de t'établir dans la Ligue nationale, mais que ça arrive dans un contexte où en ce moment, tu es sur une lancée comme celle-là. Comment tu vis ça?
Bien, c'est sûr que c'est le fun. Tout au long de ma vie, là, j'ai jamais arrêté de croire en mes moyens. Puis souvent, le hockey, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est beaucoup une question de timing, beaucoup une question de saisir les opportunités quand ils se présentent à toi. Puis c'est sûr que moi, à la base, je suis pas un gars repêché. Puis j'ai pas eu... j'étais pas prêt pour jouer dans les hauts calibres à bas âge dans la début vingtaine. Donc, ma perception était différente des choses. Mais en ce moment, là, ça va vraiment bien. Puis... peut-être qu'indirectement, là, ça m'a aidé justement de passer tellement de temps à travailler sur ma game. Fait que là, j'ai vraiment un bon spotlight d'opportunité.
Ouais.
Puis, je suis en plein contrôle de mes moyens. Je suis très confiant. Puis, dans le fond, je joue hockey comme si c'était juste un autre jour comme un autre. Là.
As-tu déjà eu une séquence de trois matchs avec un but au niveau professionnel?
À Laval, cette année, j'avais commencé, je pense, même chose, un but en 14 ou 15 games, puis après ça, ça avait commencé à rentrer. Il faudrait que je recheck, mais...
C'est ça, tu as eu un tour du chapeau,
ouais,
deux puis buts. Genre deux buts après. C'est ça, je pense qu'il y a une séquence
où tu étais... Ça a commencé à rentrer, mais c'était un petit peu la même chose. Là. Mon père, il me rappelait... au début de l'année à Laval, j'avais des chances, je jouais bien, puis la puck rentrait pas. Puis, des fois, quand tu fais les bonnes actions à long terme, au lieu de des fois juste à court terme, que là, l'aspect psychologique embarque, puis tu te dis, elle rentre pas, mais c'est pas la bonne façon de voir les choses. Au contraire, si tu es constant dans tes performances, puis à toutes les games, tu as des chances à marquer, bien, à un moment donné, ça va rentrer, c'est sûr. Mm-hmm.
Est-ce que. À quel point tu vois le parallèle en ce moment avec Mathieu Darche?
Ah, ben. Tu sais, j'essaie de. T'sais, Mathieu Darche, moi, quand j'étais jeune, c'est sûr que c'était un gars qui a percé tard, qui a saisi sa chance, et des parallèles comme ça, oui, mais je te dirais plus que c'est flatteur de me faire comparer à lui parce qu'il a une belle carrière, puis on sait tout ce qui est rendu maintenant, mais moi, j'essaie de me concentrer sur moi, puis je me dis, j'ai pas un parcours... c'est dur de trouver des similarités avec moi, donc moi, c'est moi, puis je me dis, je vais faire ma route, je vais faire mon chemin, puis en ce moment, ben j'essaie de faire ça tranquillement, pas vite, puis jusqu'à maintenant, ça va bien, là.
Moi, j'aimerais te parler de Gwinnett.
Oui.
Gwinnett et ta première saison professionnelle, évidemment, tu as joué là. Mais cette saison-là, tu as eu un loan avec les Bulldogs.
Oui.
14 matchs dans la Ligue américaine, 8 points.
Oui.
Puis ça a pris un autre 2-3 ans avant que tu retournes dans la Ligue américaine.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est... pendant ces 14 matchs-là dans la Ligue américaine, j'imagine que tu te sentais quand même assez bien. Là. C'était quoi ce... Toi, ce processus-là où tu étais rendu à un certain point, puis là, tu t'es éloigné un peu loin de là.
Je te dirais que, honnêtement, j'ai appris à la dure un petit peu parce que la première année, j'avais fini à Hamilton, puis ça allait super bien, là, 8 en 14 et tout. Puis l'année d'après, je suis arrivé au camp, puis je me disais dans ma tête, ben là, je vais faire l'équipe, je suis parti, je vais continuer de monter vers le haut, mettons. Mais je me suis dit, je suis arrivé au camp, I didn't know better, je suis arrivé au camp, pas de contrat, puis je me disais, je vais avoir un bon camp, j'ai fini l'année là, ça va bien aller et tout. Puis au camp d'entraînement, à la fin du camp, il m'avait retranché. Souvent, c'est l'hockey pro, là, c'est la business, les contrats et tout. Puis une game hors concours dans East Coast, quand je suis descendu, j'ai fait une commotion, puis j'ai manqué genre 4-5 mois. Donc quand t'es pas repêché, puis t'es un joueur de même, tu tombes dans un crack assez rapidement. Fait que là, j'ai été obligé de tout rebâtir ça. Puis le fait de pas m'entraîner pendant 4 mois, de rien faire, tu perds de la force musculaire, tu perds tout. Fait que c'est vraiment de recommencer de scratch. Là, je t'étais rendu vraiment, vraiment bas, mais... T'sais, indirectement, je me suis dit, OK, c'est encore un challenge que j'ai. Je vais encore prouver qu'ils ont fait une erreur. T'sais, c'est beaucoup de motivation à l'interne, mais j'ai toujours été un gars comme ça. Toute ma vie, là, j'ai été coupé à peu près à toutes les places possibles, mais au lieu de me dire que mes parents ne me disaient jamais que c'est la faute d'un ou c'est la faute de l'autre, là, montre-le, puis tu sais, montre-le qu'ils ont fait une erreur, retrousse-toi les manches. T'sais, tout l'aspect de motivation.
Ça, c'est... Ouais, mais. Tout de suite après ça, c'est. C'est pas évident de se motiver, de s'automotiver.
C'était pas évident, mais ça forge le caractère. Ça, à long terme, ça m'a permis de peut-être de rester plus longtemps dans les mineurs pour, en ce moment, mettons, que ma game assez meilleure, puis d'avoir plus de chances d'être meilleur, puis d'être prêt quand j'arrive justement dans le national.
Y a-tu un moment en particulier quand tu repenses à tes années dans la CHL? Puis forcément, tu n'as jamais renoncé à ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, mais est-ce que quand tu repenses à ces années-là, il y a un moment, peux-tu nous décrire un moment en particulier où tu dis, tabarouette, je me sens loin de mon rêve?
Ben j'ai c'est une bonne question, mais j'ai jamais trop pensé à... Mettons, quand je suis en East Coast, je pensais pas à la Ligue nationale. Je pensais à me faire collier dans l'Américaine. Puis après ça, mon step, c'était de rester dans le line-up à tous les jours. Après ça, mon step, c'était de monter sur le top 6. Après ça, c'était vraiment des... petite chose, une chose à la fois, tout le temps, toute ma vie. Puis, tu sais, même au début, quand je suis arrivé à Gwinnett, j'étais 10e attaquant, puis j'étais scratch, là, tu sais. C'était l'année du lockout, puis les équipes étaient pleines. J'étais arrivé, j'étais recru, puis tu commences en bas de l'échelle. Fait que c'était le même principe. Fallait que je reste à line-up. Après ça, je voulais avoir du powerplay. Après ça, je voulais monter, etc. Fait que j'ai fait un petit peu ça, mais quand j'étais dans la course, je pensais pas à une nationale. Je pensais à monter tranquillement, pas vite. Mais, tu sais, des bounds, ça a toujours été mon rêve de jouer, puis... Puis la manée, je me suis rendu compte, je sais pourquoi pas que je pourrais aussi performer. Pourquoi... Puis là, directement, la confiance embarque. Tu vieillis, tu es plus mature dans ton approche, tu es plus en contrôle, tu connais plus la ligue. Tu sais, le jeu se calme. Puis les joueurs autour de moi, ben, ils sont plus jeunes que moi la plupart. Fait que, à un moment donné, quand tu es rendu à l'aise, ben, je me dis qu'ils sont plus jeunes que moi. Je devrais me faire confiance. Ouais. Indirectement, à l'âge, je fais un facteur. Puis. Non, je pense que c'est ça. Je suis allé vraiment baby step à toutes les fois, puis j'ai jamais arrêté là, de croire. Là. C'est sûr qu'il y avait des mardis soirs dans East Coast, que c'était dur à se motiver, mais je me suis fait vraiment bien entourer junior par mes entraîneurs, puis mon entraîneur, Donald Dufresne, que je cite depuis des années, qu'il me disait, tu sais jamais qui te regarde à toutes les soirs. Ça peut être un mardi soir qu'un scout il se déplace pour voir une game de la East Coast, puis si t'en joues une grosse, ça peut être ça, ton corps-là, puis si t'en joues une pourrite, ben là... J'essaie tout le temps de me motiver à chaque game, de jamais prendre une game off, de ci, de ça. Fait que dans East Coast, quand tu fais ça, ben c'est sûr que tu as du succès parce que des fois, il y a des gars qui prennent des game off. moi, j'ai jamais été ça. Fait que j'ai toujours eu le principe de m'améliorer, d'impratique. Le nombre de fois que je me suis dit que j'étais tannant, de relax, de ci, de ça. Mais moi, j'étais là. Si tu veux pas travailler, moi, je veux être meilleur puis je veux m'améliorer. Fait que c'est un petit peu ça mon mindset.
Je pense que. Il n'y a pas grand monde qui comprend la réalité dans les East Coast. C'est deux coches en dessous de la Ligue nationale, mais c'est loin de la Ligue nationale. T'sais, financièrement, ça ne doit pas être facile. Il y a toutes sortes de... un paquet d'autres stress, à part le hockey, qui existe. Peux-tu un peu nous décrire la vie dans cette Ligue-là pour toi? C'était comment que tu as vécu ça pendant plusieurs années? Hein?
Oui, ben honnêtement, moi, premièrement, je pense que c'est une ligue qui est très sous-estimée. Là. Les gens n'ont pas beaucoup la chance de voir aux États-Unis, mettons, à quel point souvent il y a des joueurs repêchés. Il y a des joueurs qui ont déjà eu, souvent après les entry level, qui qualifient pas ou qui performent pas, ben ils vont aller dans East Coast puis ils essayent de se donner une deuxième chance. Puis un petit peu plus tard, là, si ça marche pas, ils vont aller en Europe. T'sais, c'est un peu ça, la window que les joueurs ont, mais c'est sûr que c'est plus... il y a des gars qui savent que leurs meilleures années sont derrière, qui sont pas nécessairement... Il y a beaucoup de talent, mais c'est pas les plus grands motivés. C'est pas, il y a beaucoup de X raisons que ça fait que la Ligue, le talent est bon, mais des fois, le pace est moins haut, les détails, ici et ça. Donc, mais, encore une fois, moi, je me suis toujours dit, peu importe la Ligue, peu importe t'es où, tu es en contrôle, comment tu peux t'améliorer, comment tu peux travailler, comment que tous tes habits, puis ci, puis ça. Donc, c'est pas souvent en deux semaines que tu vas voir le résultat, mais quand tu fais les mêmes choses à 5-6 ans, là, on commence à
avoir de quoi. Ton premier but, tu as mentionné le fait que je me rappelais des arénas avec 200 personnes. C'est cette réalité-là que je sais pas si tout le monde comprend, effectivement.
Oui, exactement. Ça revient à la motivation. Je te dirais, il faut que tu crées ta propre motivation. C'est quoi ton but? T'es-tu vraiment motivé ou... tu dis que t'es motivé, là, tu sais, des fois, là, ça peut partir de loin, puis, tu sais, moi, j'ai toujours été un gars qui aimait le hockey, là, j'étais un petit nerd hockey en grandissant, je suivais toutes les équipes possibles, canadiens, etc., donc, tu sais, pour moi, je me lève le matin, c'est le fun, je vais à l'aréna, là, tu sais, en vrai, ça n'a pas changé depuis que je suis jeune, fait que c'est le fun de se motiver, puis c'est facile d'embarquer sur la glace, puis de vouloir s'améliorer, là.
T'as eu, avec le Rocket de Laval, un rôle de leader. Et puis, on dirait que tu es arrivé à Montréal, puis tu as prolongé ça. Et même si tu es, entre guillemets, un nouveau, tu es quand même capable immédiatement d'apporter du leadership. Qu'est-ce qui te rend à l'aise de pouvoir faire ça, de dire « j'arrive dans un nouveau calibre, puis je vais être moi-même, puis je vais pouvoir fournir du leadership, même si je suis quasiment le dernier arrivé. »
Bien, c'est sûr que j'aurais pas fait ça ma première saison à Montréal dans l'organisation, mais ça fait cinq ans que c'est ma cinquième année ici, puis au fil des années, tu sais, je regarde les noms dans la chambre, puis je les connais toutes, ça fait au moins 2-3 ans que j'ai côtoie, puis tout, fait que, tu sais, quand tu viens à l'aise avec les gars hors glace, ben là, directement, ben, tu viens à l'aise à la glace, puis, tu sais, cette année, tu sais, l'année dernière, j'étais pas beaucoup comme ça non plus, là, tu sais, j'ai essayé de parler moins, puis tout, mais... Moi, qu'est-ce qui fait mon succès en tant que joueur de hockey? Ben, c'est de rester moi-même, puis de rester énergique, de rester positif. Des fois, sur le banc, je suis juste resté dans le game, je parle. Comme ça peut, des fois, c'est juste pour détendre l'atmosphère, mais moi, ça me permet à moi-même de bien performer et d'être dans une bonne zone. Fait que quand je suis arrivé ici cette année, je me suis dit, j'ai absolument rien à perdre. Il y avait des blessés, j'avais une petite fenêtre, fait que j'étais là, de la merde, là, genre, je reste moi-même, puis... Puis ça a bien fait dans un sens, parce que aussi avec le line-up qu'il y avait, je pense que si je peux apporter ça, ben c'est un autre de mes atouts que je peux amener.
C'est la troisième année où est-ce que tu as une tasse de café avec le Canadien, mais cette opportunité-là, la porte, corrige-moi si je me trompe, la porte est plus grande ouverte, ton opportunité, tu dois la sentir là. Fait qu'elle est, comment tu trouves l'équilibre entre demeurer conscient du fait que cette occasion-là, c'est peut-être la meilleure que tu vas avoir, sans nécessairement te mettre trop de pression par rapport à ça?
Bien, moi, je pense que c'est rester au jour le jour. J'essaie, j'overthink jamais les choses. C'est une journée à la fois, je me réveille le lendemain, il faut que tout a recommencé. Le monde du hockey, c'est un éternel recommencement. Puis, si tu joues une bonne game un soir, tu en joues une mauvaise l'autre, ça peut être ma dernière. Là. C'est de même, c'est l'approche que j'ai. Fait que, sans me mettre de pression, au contraire, je pense que je reste moi-même. Puis cette année à Laval, quand je jouais mes meilleurs, j'ai eu une bonne séquence après les fêtes. Puis c'est exactement ça l'approche que j'avais. C'est du hockey, fais-toi confiance, t'es bon. Puis reste naturel, je pense que c'est ça la clé du succès. Puis j'ai été bon de transporter ça ici, puis je reste moi-même, je reste naturel comme que je suis. Puis en ce moment, ben, ça va bien sur la glace.
Tu as mentionné tantôt être tannant dans l'East Coast. Ça a l'air que tu es pas mal tannant sur la glace, que tu parles beaucoup aux adversaires. C'est quoi ton approche en termes de trash talk sur la glace?
C'est quand même rare que je trash talk, je vais dire, mais c'est plus des fois dans les actions ou derrière le jeu, ou genre, les meilleurs joueurs, ils n'aiment pas ça se faire frapper ou ils n'aiment pas ça mettre les breaks, mettons, après leur pause. C'est juste de recouper les routes pour que, c'est niaiseux, mais c'est la manière que j'ai été appris à Laval les premières années avec Joël Bouchard. Je pense qu'il a fait un excellent travail là-dessus. Plein de choses que je ne m'avais jamais fait montrer, que j'ai rajouté à mon bagage, mettons, de joueur de hockey. Puis si tu regardes là, les gars qui défendent bien, je pense que c'est ça qu'ils font. J'ai regardé beaucoup Philippe Dano dans les dernières années. Je m'entraîne l'été à Québec, puis ça a été un des meilleurs contre Edmonton l'année du COVID. Il barrait les mains. Il était tout le temps en face avec David à Drysdale. Il leur donnait jamais d'espoir, jamais le temps de prendre leur élan tout le temps. Fait que ça vient redondant. Puis souvent, ces gars-là sont pas habitués que ça fasse ça. Fait que émotionnellement, ils viennent, des fois, ils viennent fâcher. Puis juste le fait que ça les fâche un petit peu, ben, ça veut peut-être dire qu'ils vont manquer une chance. Là, parce qu'ils vont en avoir quand même des chances. Là. C'est le meilleur au monde, mais l'approche, des fois, c'est juste des rentes mal à l'aise ou que ça s'aille. Il ne faut pas que ça s'aille facile, dans le fond, parce que si c'est facile, ils sont trop forts, ils vont scorer une ben, chance sur deux.
C'est motivant s'ils sont fâchés. J'imagine pour toi.
Ben oui, ça veut dire que je fais mon travail. Puis je renverse la médaille dans des ligues que. Mettons Laval, que j'étais le capitaine, j'avais un gros rôle. Ben, s'il y a des. Je sais qu'il y a d'autres gars qui faisaient ça sur moi, mais c'était là le challenge, de rester concentré, puis ça fait partie du hockey. Mais il y en a d'autres que quand tu n'es pas habitué, ben ça les frustre plus que d'autres, je veux dire.
Mais la raison pour laquelle Arpin t'a posé la question, je pense, c'est parce que Anthony Richard nous a dit que quand vous avez affronté, quand il était avec Syracuse, il avait trouvé que tu parlais.
Ah, mais là, c'était dans la série, puis il y avait beaucoup de Québécois, puis il y en avait de l'historique contre Syracuse. Beaucoup de motivation à l'interne. J'avais des anciens coachs qui m'ont coaché, que c'était une source très motivante pour moi de leur performer ça direct contre leur équipe. Il y avait des joueurs que j'ai joué toute ma vie contre, genre c'était vraiment là. Puis tu sais, dans les séries, c'est l'or qui est le plus beau que tu peux jouer. Là, t'es avec tes 20 chums que tu t'en vas à la guerre. Puis tu sais, à la fin de la série, un gagnant perdant. Fait que on joue pas gagné.
OK. Alors tu fais pas ça dans la Ligue nationale? Ben, régulièrement.
Ça dépend du contexte, ça dépend des games. Souvent, vous en rendez pas compte. C'est à surveiller.
Ouais. Est-ce que...
On va faire ça. On va surveiller ça. Ouais.
Est-ce qu'il y a des gens... évidemment, les gens qui te connaissent ont certainement exprimé leur bonheur de te voir réussir puis de vivre ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu as reçu des messages de personnes que tu t'attendais pas? C'est ça, que ton histoire, finalement, a rejoint du monde qui t'ont surpris.
Bien, c'est sûr que, tu sais, maintenant au Québec, là, il y a beaucoup de support, surtout, tu sais, là, ça fait quelques temps que je suis avec le Canadien, fait que le monde commence à connaître mon histoire un petit peu, là, tu sais, qu'à partant quand t'es pas repêché, tu peux pas espérer d'arriver, à part Starbird Jacky, là, c'est une exception à la règle, là, mais techniquement, là, le chemin va être beaucoup plus long, beaucoup plus... rocambolesque puis tout, fait que tu sais, c'est de la motivation, mais j'ai eu des anciens entraîneurs dans East Coast qui m'ont texté, j'ai eu des journalistes que je pensais jamais, tu sais, des fois c'est la perception que moi que j'ai, je pense que c'est normal, tu sais, j'ai aucune notion d'à quel point que, tu sais, l'impact, mettons, hors de l'aréna, parce que je reste focusé à l'aréna, pour moi c'est une autre journée, tu sais, j'essaie pas d'overthinker encore une fois, mais t'sais, mais que l'année finisse, je vais peut-être faire une petite rétrospective, puis je vais me rendre compte que, ouais, finalement, peut-être que c'est quand même gros ou quelque chose du genre, mais en ce moment, je suis dans le jour, demain, c'est un autre jour, demain, on joue New Jersey, t'sais, c'est vraiment là, très simple comme approche. Là.
Est-ce que c'est particulier de jouer au hockey à Alaska?
En Alaska, c'était le fun de jouer au hockey. J'ai eu la chance de remporter ma première Cali Cup là-bas. C'était vraiment une belle expérience. C'était Anchorage qu'on avait. Vraiment une belle place. Tu sais, avec le hockey, ça te permet de découvrir du pays. Tu voyages, tu fais des rencontres. Tellement un beau monde que tu matures là-dedans aussi. Là. J'étais le seul Québécois là-bas. Ça a amélioré mon anglais. Ça sort de la zone de confort et tout, des choses du genre. Mais non, j'avais vraiment aimé ça, jouer en Alaska. Puis je me souviens quand on avait gagné la dernière game 6 contre Cincinnati, c'était le 9 juin. Puis là-bas en Alaska, l'hiver, il fait très noir. Puis l'été, il fait très soleil. Puis... Ouais. Et c'était soleil pas mal tout le temps, entre à peu près minuit et demi puis 2h30 du matin, là, c'était noir. Ben tout est relatif, là. C'était pas noir, mais c'était sombre.
Ouais.
Puis après ça, célébrations, ben c'était le matin, donc c'était vraiment quelque chose de différent, mais c'était le fun. Là. J'ai vraiment des beaux souvenirs d'Anchorage en Alaska.
C'est quoi la place la plus weird où tu as joué dans ta vie?
Trenton, ma première année dans East Coast. C'était une petite aréna, c'était vieux, c'était vraiment là, tu sais, même, mettons, les arénas juniors, là, il y avait, les arénas juniors étaient belles, mettons, je veux dire.
Comparé à ça.
Puis, c'était la première année, là, j'étais en train de fouiller, mais ils sont plus dans la ligue, mais je pense que c'était Club École de New Jersey dans East Coast, là, d'habitude, ma mémoire est pas pire.
Ben, c'est Trenton, New Jersey, justement.
Ouais, c'est ça, exactement, bon, c'est ça, il y avait ça, puis je me souviens, j'avais joué une game, puis après ça, on a fait Wheeling, puis même Wheeling, c'est correct. Non, ça a été un road trip là, que justement, ça te sort de la zone de confort, puis il faut que tu t'automotives, puis ça revient au même discours. Tu sais jamais qui te regarde, ça prend rien qu'une fois, un gars qui est dans la strade, qui t'aime, je m'accrochais à toutes des petites choses comme ça, puis je pense que c'était la bonne façon de penser parce que ça me permettait de m'automotiver dans un sens.
As-tu jamais eu la possibilité d'aller jouer en Europe? Tu mentionnais tantôt que c'était un peu ça le cheminement. Tu tentes ta chance dans l'East Coast, puis après tu t'en vas en Europe. As-tu eu cette chance-là?
À chaque année, depuis 23-24 ans, j'ai des offres en Europe.
Comment ça se fait que t'as...
Mais ça m'intéressait pas. Moi, mon but, c'était de jouer dans la Ligue nationale. C'était très simple comme approche, puis j'ai plein d'amis... tout de mon groupe d'âge qui a 25, 26, ça partait tranquillement un par un. Mais
moi, tu peux gagner une vie là-bas.
100%, là, 100%, mais j'ai toujours cru en moi. Et, je savais que j'ai pas le même développement que personne. J'ai joué dans le 2C toute ma vie. Je patinais 2-3 fois semaine jusqu'à l'âge de 17 ans. Là, fait que j'avais pas de millage. Puis je pense que c'est une bonne chose parce qu'en ce moment, peut-être qu'il y en a qui disent que je pique ou des choses du genre, mais... T'sais, moi, dans ma tête, là, mon âge, je suis encore très jeune, puis mon corps est... Il y en a en ce moment qui s'entraînent depuis qu'ils ont 12 ans. Que, quand ça fait 20 ans que tu t'entraînes, là, ton corps est différent. Mais moi, je pense que j'étais encore. C'est peut-être pas la meilleure affaire à faire, tu sais, j'ai le 2C, puis pas jouer compétitif en jeune âge, mais je pense pas que ça nuit personne. Puis au contraire, là, je pense que ça m'a permis de jouer à d'autres sports, de toucher à plein d'autres choses, puis ça a amélioré mes sens du sport, mon sens de hockey, mon sens de tout le comment lire les sports en général. Là.
Dans quel sport c'est bon en particulier, à part le hockey?
À bas âge, j'ai joué beaucoup au tennis, je joue du Québec au tennis. Mon grand frère était très bon au tennis aussi. Après ça, j'ai joué au baseball. J'ai joué au golf beaucoup, j'ai fait des tournois de golf en grandissant. J'étais dans une ligue de volleyball à un moment donné, au secondaire. Après ça, j'ai joué au basket une année. J'ai vraiment touché à tout. Puis j'apprécie que mes parents m'ont fait aussi, m'ont poussé à tout faire, de tout toucher, d'améliorer tout ça. Parce que quand tu deviens un athlète en général, je pense que ça t'aide dans tous les sports.
C'était-tu une décision de jouer 2C?
Non, j'ai été coupé. J'essayais d'être 2A, je me suis fait couper. J'étais allé midget soir, je me suis fait couper. Midget 3, je me suis fait couper. Puis la matinée, tu restes à le 2C, puis tu joues avec tes chums. Puis c'était le fun, j'avais du plaisir, mais c'est des fois... C'est ça, le niveau de jeu était différent.
Ouais. Mais à ce moment-là, tu ne devais pas imaginer que tu allais faire carrière dans la Ligue nationale.
Non, pas du tout, pas du tout. Moi, mon plan, je voulais jouer junior 2A, junior 3A, là, s'arrêter. Ouais. Un bon. Puis je voulais être prof d'éduc dans la vie. Fait que j'aurais été ça. J'aurais été très satisfait aussi. Là. C'est juste que là, ça a changé. Là. Je me suis rendu compte que peut-être j'avais un potentiel au hockey, mais à la base, j'ai toujours aimé ça, montrer, enseigner. J'étais patient, j'aime le sport.
Ben justement, à ce niveau à cet égard-là, Michael Pezzetta m'a dit l'autre soir, il dit « Je vois très bien, après sa carrière, Bell devenir un entraîneur. » Puis j'ai posé la question à Martin Saint-Louis, puis il dit « Ouais, je peux voir ça, il y a ce type de qualité-là. » C'est-tu... évidemment, regarde, t'arrêtes. T'es en train de t'établir dans une nationale. On va te donner une chance, là, t'as 31 ans. Mais c'est-tu un...
Marc-Antoine est en train de préparer ta retraite, là, c'est ça?
Mais c'est-tu un parcours... C'est-tu quelque chose que tu dis, bien, là, à long terme? C'est-tu quelque chose que...
Ben c'est sûr que je l'ignore pas, puis je sais comment que je suis. T'sais, j'ai déjà pensé... entraîneur ou que ce soit n'importe où dans le hockey, j'aime l'aspect GM aussi, mettons la perception des joueurs. Il y a beaucoup de gens qui voient des joueurs d'une façon, mais des fois ta perception peut être différente de chacun à chacun. T'es pas toujours obligé d'être flashy puis de patiner comme une fusée pour être efficace. Souvent il y a des transactions qui se font, mettons à la date limite transaction des équipes nationales qui se font que ça fait sourciller quelques gens, puis quand ils finissent les séries, ils se rendent compte à quel point que le gars avait un impact dans le club. Ben, des fois, c'est la perception des gens. Fait que moi, je pense que je me fais confiance dans ma perception de la game, que comment que je vois le hockey, comment que je pense que le hockey devrait être joué. Puis jusqu'à maintenant, les coachs, c'est le discours, qu'est-ce qui monte, ben ça, je suis pas dans le champ. Donc, je me dis que je vais continuer à me faire confiance là-dedans. Là.
Okay, alors, c'est pour ça que tu as aimé qu'on mentionne Mathieu Darche tantôt.
Ben non,
ça,
mais.
Ça t'a pas dérangé.
Ben non, mais tu sais, il est rendu assistant GM. Je respecte tout ce qu'il a fait. Il est dans la McGill. Mon grand frère joue à McGill. Je connais très bien toute sa carrière. Donc, c'est comme je te dis, quand en grandissant, j'étais un nerd de sport. Fait que j'y connais pas mal les gars.
Tu as un parcours, tu dis, mon parcours est différent, mais est-ce que y a-tu quelqu'un qui t'a servi plus d'inspiration?
Ben, inspiration. Pas nécessairement, mais j'ai Donald Dufresne à Rimouski, j'en reviens toujours dessus. C'est vraiment lui qui m'a préparé. Je pense que ça a été le premier qui a vu mon potentiel, mettons, au hockey. Puis lui, quand j'étais junior, il m'a vraiment préparé à ma carrière professionnelle. Puis si je voulais percer, puis il était niaiseux, mais junior, il me disait, c'est un jour tu joues national. Tu vas être un gars efficace à la quatrième ligne, puis moi, ma perception junior, j'étais un gars offensif, je patinais pas vite, je faisais des points, etc. Fait que là, j'ai resté OK, mais dans ma tête, des fois, you didn't know better. Là, mais lui, il avait tellement une belle perception, puis il a fait une carrière de 6-7e défenseur. Il était textbook, il était aimé par tout le monde, c'était un leader, c'était comme... rempli de qualité que indirectement peut-être qu'il se voyait peut-être en moi un petit peu. Donc, mais non, moi, j'ai... Puis tout, t'sais, que j'écoutais, je suis très bon pour écouter, puis d'apprendre des autres. T'sais, j'étais un éponge un petit peu. Puis surtout quand un gars comme ça a parlé à, t'sais, il a coaché Sidney Crosby à Rimouski 2 ans, puis avant le COVID, il a retourné encore en Nouvelle-Écosse pour patiner avec Sid. Puis des fois, quand Crosby, ça va moins bien, il texte, puis tout. Fait que, tu sais, il me parlait, puis il me disait, tu sais, si je le dis à Sid, puis il dit oui, hein? J'étais là, OK, c'est bon, tu sais. Fait qu'après ça, là, j'ai juste commencé à tout éponger, puis, tu sais, quand j'ai joué ma première partie nationale, là, j'ai appelé mon père, ma mère, mon frère, ma fiancée, puis Do, là, puis Donald. Fait que, tu sais, c'était vraiment, là, j'y douais beaucoup de choses, puis, fait que, non, c'est plus c'était peut-être une inspiration indirectement, là, slash mentor, qu'il m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé, puis surtout sur l'aspect psychologique, là.
Bien, en fait, c'est drôle que tu dis que... Parce que moi, je trouve qu'en ce moment, ça sert comme une inspiration à plusieurs personnes. Il y a beaucoup de monde qui joue peut-être le 2C maintenant ou qui ont été coupés de leur équipe. Es-tu conscient de ça? Es-tu conscient du fait que chaque fois que tu t'embarques sur la glace au Centre Bell, il y a plein de jeunes qui te regardent et te disent « Wow, moi, je pourrais peut-être faire la même chose. »
Ben, pas beaucoup en vrai. Je pense... Tu sais, j'essaie de... Tout l'extérieur, toutes les choses que... T'sais, oui, je suis conscient. Je vis pas sur un nuage, mais c'est tout des choses que en ce moment, ben j'ai pas trop de contrôle. Je contrôle qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que quand j'embarque sur la glace, mais tout le monde extérieur, toutes les choses du genre, j'essaie de pas trop penser, de pas trop m'accrocher à ça. T'sais, rendu à la fin de l'année, je vais penser à ça, mais en ce moment, j'ai 2 pieds dedans, puis quand tu es là tous les jours, que c'est ta job, ben je pense pas que t'as la perception. T'sais, la perception est différente de mon point de vue par rapport à d'autres. Là. Moi, je pense juste que t'sais, dans ma tête, c'est normal que je sois rendu là. Puis c'était dû pas arriver. Puis t'sais, en vrai, j'étais à ma place. Puis ça va bien. Puis t'sais, je me pose pas plus de questions que ça. Là, t'sais, je me réveille le matin, je m'en vais au bureau. Puis j'ai du fun. Puis en ce moment, là, je joue du bon hockey. Fait que ça va continuer. Là. T'sais, c'est très simple.
Ouais. Tu sais, t'es aussi le capitaine du Rocket de Laval, puis le Rocket se bat pour une place en séries éliminatoires, puis à la date limite des transactions, il y a eu des transactions sur papier qui ont été faites, puis qui rendent Raphaël, puis Yessa Ilonen admissibles pour participer aux séries, mais pas toi. Comment t'as vécu ça?
Ben c'était un petit peu bittersweet, mais tu sais, avec... Tu es capitaine, puis je pense que indirectement, ben tu sais, c'est le fun, puis j'étais à Laval, j'adorais ça. Je faisais n'importe quoi pour les gars, puis les gens qui me connaissent. T'sais, en vrai, j'étais pareil comme que j'étais ici à Laval. C'est juste que là-bas, il y a beaucoup plus de jeunes joueurs. Puis des fois, c'est plus de montrer l'exemple sur la glace. Puis on arrive des voyages, t'es fatigué. Moi, mais t'es pas fatigué. Là, concentre-toi pour 1 heure, ça va être correct. T'sais. Fais tes affaires dans le gym, fais tes ci, fais ça. Mm-hmm. Puis j'avais Gabriel Bourque qui était avec moi, qui est un... L'ultime professionnel, il a joué 450 games dans la nationale, puis lui, il a vraiment l'été de travail là, à 1, puis c'est beau à voir, puis les gars t'es choyé, je pense que des fois tu te rends pas compte à quel point t'es choyé de travailler des gars de même, d'avoir des bons vétérans qui sortent de tone, qui montrent vraiment l'exemple, qui poussent le monde par en haut, mais indirect, tu sais, tout le monde veut jouer dans la meilleure ligue au monde, ouais. Tout le monde veut rester dans la meilleure ligue au monde, puis c'est ça le challenge, puis en ce moment, ben t'sais, j'ai eu un petit break dans le sens que jusqu'à la fin de l'année, je redescendrai pas. Fait que je me dis, finalement, c'est un petit peu ça que je recherchais là, depuis très, très longtemps. Puis depuis que j'ai eu cette nouvelle-là, ben là, j'ai la pas 40. Fait que des fois, c'est niaiseux. Mais non, c'est sûr qu'au début, j'étais déçu, surtout avec la playoff run qu'on a eu l'an passé. C'était le fun, mais... Je me dis, moi, mon but, c'est de jouer le national, c'est de rester le national, c'est de performer le national. Fait que c'est un autre step dans la bonne direction.
Ben, dans le fond, en tout cas, moi, à ta place, la façon que je verrais ça, c'est qu'il avait peur de te perdre au ballottage. Dans le fond, il peut pas t'envoyer au ballottage sans risquer de te perdre. Alors, tu sais, quand tu dis que tu penses pas à ça, ça, c'est cool quand même, que l'organisation te voit comme ça.
Oui, peut-être, c'est sûr. Ça peut être une façon de voir ça. On était quand même mince dans les effectifs aussi. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, je sais pas, mais j'ai pas essayé de penser, de comprendre le pourquoi du comment. Là. C'était vraiment... C'était dès que j'ai vu que c'était Raph et Ilo qui descendaient, donc j'étais là, OK, bon, ben tu sais, des fois, ça fait du bien de... Tu sais, toute ma vie, moi, j'étais sur un siège éjectable, puis chaque chiffre, c'est une opportunité, chaque ci, chaque ça, pour qu'en ce moment, je m'assieds sur mes lauriers, puis c'est la fin. Mais au contraire, des fois, juste de... Tu sais, dans ma vie, j'ai toujours été... ma qualité 1, c'était de faire des jeux, faire des belles passes. Fait que, tu sais, des fois, d'envoyer la rondelle au défenseur, faire un jeu simple, mais j'avais l'option de faire une belle passe dans l'enclave, mais j'ai fait un jeu simple, tu sais, pour, tu sais, toute la game management, de tout comprendre et tout. Fait que là, indirectement, la confiance, peut-être, oh, finalement, je vais être encore plus moi-même, puis, tu sais, là, je peux encore plus, genre, m'épanouir, de jouer moi-même, faire des jeux, puis tout. Puis, je veux dire, avec mes 4 dernières games, là, ça a probablement été mes quatre meilleurs jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant.
C'est ça.
Ma perception, c'est quand un joueur arrive dans une autre ligue, dans un niveau supérieur, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit qu'il va s'habituer au rythme de ce nouveau niveau-là, puis il va pouvoir prolonger sa game puis l'instaurer dans ce niveau-là, ou bien le niveau va le rattraper, puis après une couple de games, tu vois qu'il n'y a pas cette coche-là. Comment tu vis ça, cette transition-là, pour justement être en mesure de pouvoir appliquer ta game au niveau de la Ligue nationale?
Très bonne question. Je te dirais que le plus gros point, c'est la vitesse d'exécution dans tes prises de décision. Mettons, dans la Ligue américaine, tu as un petit peu plus de temps. T'sais, avant d'avoir la rondelle, des fois, si tu oublies de regarder pour checker où sont tes gars ou si le défenseur s'en vient, ben, tu vas être capable de faire un jeu quand même, mais dans le national, c'est faut que tu s'allumes, il faut que, avant d'avoir la rondelle, il faut que tu saches ce que tu vas faire, il faut que tu saches que tu as du temps, il faut que tu saches tes options. Tu sais, c'est comme le de jouer vite, de penser vite. Puis moi, ça a toujours été une de mes qualités, puis je jouais de la même façon à Laval. Donc, tu sais, pour moi, puis tu sais, je vieillis aussi, fait que ma perception, au contraire, moi, dans ma tête, je joue avec des meilleurs joueurs, ça va être plus facile parce que mes prises de décision sont vite, je suis capable, tu sais, puis en même temps, je joue, puis si on. Dans ma tête, je m'auto-perçois, puis je me dis, t'es encore un des bons passeurs de l'équipe en ce moment. Puis, je dis pas ça pour être vantard, je dis ça parce que c'est une réalité. Puis, ça a été ma plus grande qualité toute ma vie, mon exécution, puis comment penser vite, puis de mes prises de décision, elles sont rapides. Donc, pour moi, en ce moment, la première game nationale, oui, je suis impressionné, mais là, ça fait 4 ans que j'ai des sniffs, puis que je monte. Fait que là, en ce moment, je me dis, au contraire, là, tu devrais performer là-dedans. Là.
Sauf-tu que. Parce que c'est clair qu'un gars qui n'est pas repêché, qu'une organisation n'a peut-être pas investi tout le temps pour le développer, qu'il y a un plus haut besoin de... Tu sais, les preuves sont plus difficiles. Tu sais, il faut que tu sois comme encore meilleur que le minimum. Tu sais. Puis, alors, pour toi, comment tu as vécu ça et comment tu vis ça, même en ce moment? Parce qu'on s'entend que... Toi puis plusieurs d'autres gars sont ici à cause de la situation.
100%.
Puis c'est une opportunité, ça, c'est super. Mais cette réalité-là, puis ça revient peut-être au début de ta carrière, c'est ce que tu as vécu, ton prochain camp d'entraînement. Comment tu te prépares après tout ce vécu-là pour le prochain camp d'entraînement, après tout ce qui se passe maintenant?
Le prochain camp d'entraînement, il est dans très, très longtemps.
Ouais,
fait non, que, c'est alors, moi, toute ma vie, je me suis développé un petit peu par moi-même, tu sais, les étés, tu peux te faire encadrer, puis c'est le fun, au contraire, quand t'es encadré, puis tout, mais c'est pas la réalité que j'avais, que, tu sais, les étés, j'en venais à l'East Coast, moi, l'été, je travaillais, puis, tu sais, il fallait que je survive, puis j'avais mes glaces l'été, puis, tu sais, je m'entraînais fort, puis toutes les répétitions que tu fais dans l'ombre, souvent... T'sais, le monde pense avoir des résultats après 2-3 semaines, mais améliorer ton patin, améliorer ton lancer, améliorer tes mains, c'est tellement de petits dossiers dans un joueur de hockey que tu peux pas faire ça en 3-4 mois. T'sais, c'est vraiment sur des années, puis il y a des gars que, mettons l'été en ce moment, je patine avec Patrice Bergeron à Québec, puis c'est un gars qui travaille constamment sur sa game, qui, entre les exercices d'impratique, il va pas prendre de l'eau. Il dit, hey, je veux 2 pages de là. C'est tout le temps des petites affaires pour travailler sur sa game, de travailler, de s'améliorer. Fait que, tu sais, si tu fais ça, ben, comme que je répétais tantôt, sur une échelle de 6, 7, 8 ans, ben, là, on a des résultats. Puis, tu sais, mettons dans la biographie Kobe Bryant, il en parle souvent, là. Tu sais, je veux pas le quoter, mais c'est sa perception de. Souvent, quand tu fais de quoi, les résultats apparaîtront pas maintenant, mais c'est sur une échelle de 5, 6, 7 ans. C'est là que la différence, ça va être.
C'était quoi tes jobs
pendant l'été? Là? J'arbitrais très longtemps. Okay. J'arbitrais dans des ligues d'été.
C'était
sideline, là. Ça, okay. Ça couvrait mes dépenses, l'épicerie. J'avais des amis que... son père était coordonnateur des arbitres aux quatre glaces à Brossard. Là, il est fermé, mais dans cette aréna-là. Fait que on était deux, trois amis qui arbitraient l'été. Un de mes amis jouait universitaire, l'autre de mes amis jouait à HL East Coast. Fait que on patine. Puis moi, je me disais, je patine. Quand je travaille sur mes aides, je travaille. En arbitrant, je trouvais des affaires à travailler. T'sais, c'est niaiseux, mais ça a toujours été ma mentalité de. Fait que. C'est juste de faire ça, mais tant qu'à, encore une fois, j'aime ça le hockey. Fait, puis quand j'étais jeune, j'ai arbitré aussi 12, 13, 14, 15, 16 ans. Là, j'ai déjà été provincial arbitre aussi. Donc, tout ce qui est relié au hockey, moi, c'était pas une corvée. Fait que c'était un beau petit sideline.
Okay. Tu viens de Saint-Éloi dans le Bas-Saint-Laurent. Yes. Décris-nous Saint-Éloi. Mmh. C'est quoi cette place-là? Mmh.
Saint-Éloi, c'est un petit village, à peu près 300 personnes. Il y a deux rues, la route de la station et la rue principale. Et après ça, il y a le rang 2, 3, 4, SOS. Puis c'est tout. Non, mais dans le sens que c'est vraiment un petit village. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tout le monde se connaît. Tout le monde s'envoie la main en char, ça prend des marches dans la rue, tout le monde est sympathique, tout le monde se parle. Puis c'est du monde très travaillant, beaucoup de cultivateurs, que leur éthique de travail, là, c'est de through the roof, puis ils se plaignent jamais, qu'ils sont fatigués, des choses du genre. Donc, quand tu grandis là-dedans, ben, peut-être tu t'en rends pas compte quand t'es jeune, mais qu'est-ce que l'image aux alentours de toi dégage sans t'en rendre compte, ben, je pense que c'est du monde travaillant, puis surtout du monde social. Mes parents, le monde, ils disent que je suis très sociable dans la vie, mais mes parents, c'est pas moi qui parle le plus quand je suis à la maison, mettons. Non, c'était très le fun, puis c'est une petite paroisse. Il y a une église, Poste Canada, Caisse de Jardin, un terrain de baseball, un terrain de tennis. Puis c'est tout.
Pas de restaurant, pas de café.
Pas de restaurant. Ah, il y a un petit café à Cabane du Patinoir, la cabane du terrain de baseball. Là.
OK. Mais y a-t-il un endroit où le monde se réunit pour regarder tes games?
La cabane du Patinoir, là, c'est le centre et loisirs.
OK.
Puis c'est où le terrain de baseball il est attaché dessus. Puis le centre et loisirs. Le centre et loisirs, ouais, c'est bon. Hein? Oui, Saint-Éloi, centre et loisirs. c'est ça qu'on la place de ralliement, les petits 5 à 7. Mon père et mes parents sont dans le comité des loisirs. Donc,
okay.
Ils font encore, ils roulent leur boss, ils essayent d'amener plein de petites affaires. C'est tellement du bon monde en général que tout le monde, il y a beaucoup de bénévoles. On déneige à patinoire, glacé. Il y a tellement de choses que c'est tellement différent qu'en ville. Il y a des qualités aux deux, mais moi, de ce que je viens, c'est le même que j'ai grandi, puis c'est le même que je suis en ce moment.
C'est le premier de Saint-Éloi? À se rendre dans
la Ligue nationale? Oui. À ta connaissance? Oui, 100%. Ouais, okay. À Saint-Éloi, quand j'étais plus jeune, tu sais, ça jouait au hockey. Puis là, avant moi, il y avait mon grand frère qui a joué junior 3, il a joué à McGill. Puis après ça, c'était moi. Puis je sais même pas s'il y en a d'autres qui ont joué midget 3, je te dirais. Midget 2A, even.
Ouais. Ça me rappelle, quand j'étais petit, il y avait, tu sais, Stéphane Richer jouait, puis dans les journaux, on parlait de lui en disant « le sportif de Ripon ». Ripon, c'est pas une grosse ville, mais le sportif de Ripon, comme dire, il y a un sportif, puis c'est Stéphane. C'est sinon, il y a l'artiste, il y a le comptable, mais lui, c'est le sportif. Fait que j'imagine, c'est ça, toi, t'es le sportif de cette
ville. Ben, c'est sûrement, là, je m'en rends pas compte, mes parents pourraient en parler, mais... Non, j'ai toujours été... J'étais au terrain de tennis toute ma vie. Il était à 500 mètres de chez nous avec mon frère. Je sais pas combien d'heures qu'on a passé là. Terrain de baseball, c'est tout ce qu'on pouvait à partir de l'extérieur. C'était tout le temps, mais on était chanceux parce qu'on avait ça proche de chez nous. C'était des sports, fait que dès qu'on avait une chance de faire des sports, on faisait des sports day in, day out, tout le temps.
Qu'est-ce que ça représente pour ton opportunité en ce moment d'avoir des gars comme Martin Saint-Louis puis Alex Burrows comme coach?
Ben c'est sûr que c'est le fun parce que peut-être qu'ils comprennent un petit peu plus, mettons, dans les situations qu'on est, des joueurs, mettons, non repêchés ou des joueurs qui percent un petit peu plus tard ou qui ont eu de l'adversité, ou ça peut être pour X raisons, mais Alex Burrow, je l'avais à Laval 2 ans avant qu'il se fasse promoter. Promu. Merci. Ouais. Excuse, je serais pas fier, mes parents sont pas fiers de moi, mais promu avec le Canadien. Puis c'est un gars que je parlais beaucoup, puis j'adorais. Il a tellement de belles têtes de hockey. T'sais, il n'a pas joué avec les Sadines pendant des années s'il n'avait pas compris la game. Là, c'est pas juste un, c'était pas juste un complément, au contraire. Là, il avait un gros impact, puis sa perception de la game, comme que je revenais au point tantôt, est excellente. Comment bien défendre, comment toutes les bonnes actions que tu peux faire. Donc, c'est un gars que je parlais beaucoup, 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 qui m'aidait à Laval. Puis, Martin, là, je commence à le connaître un petit peu. Fait que, quand c'est un gars qui a une tête de hockey exceptionnelle aussi. Là, je pense que c'est la meilleure que j'ai vue dans ma vie. Là, c'est du gros bon sens que tu penses, mais finalement, c'est un autre petit détail que, tu sais, c'est, oui, c'est vrai, t'as raison. Puis c'est le fun d'avoir ça, puis de qui, tout qui partage avec moi, parce que j'ai des entraîneurs que je me dis qu'ils partageaient pas beaucoup avec moi pour X raisons, mais j'ai la chance d'avoir un gars, un Hall of Famer, qui me dit des choses, des petits détails. Il n'y a pas de oui, mais là, c'est oui, c'est parfait, puis t'écoutes, là, c'est ça. Là.
Bon, mais merci beaucoup, Alex. Ça, c'était vraiment généreux, ton temps. Mais moi, je trouve ça le fun. Que t'as, c'est comme, tu sais, t'as déjà eu des matchs, mais là, t'as comme un runway. T'sais, c'est comme là, comme tu viens de mentionner, tu rentres. Puis je trouve que, ben, profite-en. Je trouve.
Merci. Ouais, bien apprécié. C'est vraiment le fun de voir. Là, oui.
Absolument.
Merci beaucoup. Je m'amuse. Puis merci, les boys. Un plaisir.
Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Vraiment une intéressante entrevue avec avec Alex Belzile. Un gars charmant, hein? Il est tellement sympathique. C'est le fun. C'est ouais, facile non, de lui poser des questions, puis let's go, il part, puis il répond. Tu sais, c'est j'aime ça de même.
Ouais, non, il était super. Puis, c'est à quel point qu'il est grounded, tu sais, c'est comme, c'est normal un peu après tout le parcours qu'il a fait. Mais, honnêtement, quand il a parlé du fait que, tu sais, le meilleur moment pour moi, c'est quand on l'a demandé s'il avait jamais eu l'opportunité d'aller en Europe, s'il a jamais pensé à ça. Tu sais, oui, il a eu l'opportunité, mais il a jamais pensé à ça parce que son but, c'était d'atteindre la Ligue nationale. Aussi simple que ça. Puis peu importe le sacrifice qu'il faisait, peu importe les opportunités qui existaient en Europe, il a vraiment resté mindé sur son but et moi, je respecte ça. Tu sais, c'est vraiment... je veux pas faire de parallèle avec lui, mais c'est un peu ce que nous on fait des fois, tu sais. Moi, je voulais couvrir les sports, je voulais couvrir le hockey, alors toutes les autres opportunités dans les nouvelles générales ou whatever, j'ai toujours dit non, même si c'était plus payant, même si c'était peut-être une meilleure opportunité, je voulais garder le cas sur la LNH, un peu comme Basile, mais moi, je respecte ça parce que, tu sais, aller jouer en Suisse là, ou aller jouer en Allemagne ou plein d'endroits en Europe, c'est une belle vie là. Honnêtement, j'ai pas entendu trop souvent des joueurs se plaindre de leur vie quand ils vont jouer professionnel en Europe. Et lui, au lieu de faire ça, il est resté dans l'East Coast, il est resté dans les mineurs pendant longtemps, ce qui est pas nécessairement une vie très charmante. Alors, respect pour ça là.
Ouais, absolument. Alors, Belzile qui... Après 19 matchs cette année, il joue en moyenne 11 minutes 27. C'est quand même, ça demeure un des joueurs les moins utilisés du Canadien. Mais il a marqué 4 buts, ajouté 6 passes, donc 10 points en 19 rencontres. Ce qui est drôle, c'est que c'est exactement la même fiche que le plus récent premier choix overall au repêchage, Juraj Slafkovský, à peu près le même temps de jeu, mais en 20 matchs de moins. Fait quand le gars qui a 18 ans, puis là, tu sais, je veux pas avoir l'air de faire de la mauvaise foi, parce que je sais que d'avoir de la mauvaise foi, parce que c'est deux carrières complètement distinctes, puis il y en a un qui est appelé à devenir vraiment un joueur d'impact dans la Ligue nationale, mais de voir qu'à ce moment-ci, Alex Belzile a réussi à avoir la même production en 20 matchs de moins que Slafkovský, tu te dis, wow, C'est le hockey, parfois, est rempli de surprises.
Oui, absolument.
Écoute, cette semaine, on va, tu sais, on fait un petit peu différent cette semaine, étant donné que non seulement on a un invité, mais ça a été quand même une entrevue à plus grand déploiement. Au lieu de se lancer dans de grands débats aujourd'hui, ben on va se rendre directement à notre boîte vocale parce que encore une fois, nos auditeurs répondent à la demande et puis on vous offre la possibilité de simplement nous communiquer vos questions en nous appelant sur notre boîte vocale et puis on va répondre aujourd'hui à deux de vos questions. Donc, je vous rappelle le numéro pour ceux qui seraient tentés de le faire pour un épisode futur. Donc, vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Hein? Il n'y a personne qui va répondre. Fait que si jamais il y a une envie à 3h du matin, là, chez vous, lousse, vous pouvez appeler au 646-847-9404. Alors, sans plus tarder, notre première question.
Oui, bonjour, messieurs. Marc Trébutaille de la région de la Nadière. Félicitations pour vos émissions. Après avoir écouté votre émission en anglais au début de la semaine concernant les premiers choix du Canadien, potentiellement, là, ou également si la Floride ne fait pas les séries, la réponse absolue étant oui, je suis bien conscient de ça, mais votre opinion sur la possibilité que le Canadien, avec deux premiers choix, puisse tenter de l'échanger, puis l'intérêt d'avoir deux premiers choix pour aller chercher le numéro un cette année. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bon, mais merci pour la question. Écoute, la réponse simple, c'est non. Le Canadien ne peut pas, tu sais... Le Canadien pourrait offrir leur choix, le choix des Panthers, leur choix en 2024, leur choix en 2025 et leur choix en 2026. Et peu importe l'équipe qui a le premier choix overall, il ne le prendrait pas, probablement, je pense. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose que cette équipe-là va accepter en retour pour un joueur qui risque d'être le meilleur joueur de sa génération. Écoute, on ne sait pas. C'est quand même... c'est un inconnu à un certain point, mais Connor Bedard, c'est un joueur qui vient si rarement que je pense pas qu'il n'y a aucune possibilité que n'importe quelle équipe peut offrir n'importe quoi pour ce choix-là. Ils l'auront probablement pas. Alors, mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas utiliser le choix des Panthers pour avancer d'un rang ou deux, peut-être, s'il y a un joueur qui les intéresse. Ça, c'est possible. Mais le premier choix overall, oublie ça.
Non, effectivement. Là, à l'heure actuelle, la journée où on enregistre ce podcast, la meilleure probabilité pour le Canadien dans le rang qu'il occupe, c'est de repêcher 7e. Et les Panthers de la Floride, leur choix le plus probable serait le 13e. Alors, si tu veux combiner le 7e et le 13e, ça pourrait peut-être être suffisant pour monter au 4e rang. Je pense que tu peux pas aller chercher le 2e. Mais sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir après Bédard, il va y avoir une discussion certainement autour de la au sein de plusieurs équipes, à savoir est-ce qu'on prend Adam Fantilli ou on prend Matvei Mishkov. Fantilli est probablement un choix plus prudent pour toutes sortes de raisons, mais vous le savez maintenant, là, on en a parlé déjà, mais bon, le fait que Mishkov soit sous contrat pendant 3 ans en Russie, l'aspect géopolitique qui nous pose la question à savoir que va-t-il arriver des joueurs russes dans la Ligue nationale dans 3 ans aussi? Où est-ce qu'on en sera rendu? Il y a un point d'interrogation. Leo Carlson complète le premier quatuor, si vous voulez, mais à partir du moment où ces 4 joueurs-là ne sont plus dans le portrait, si jamais le Canadien identifie un joueur qui dit « Nous, on a un joueur qu'on mettrait 4e à la place de Carlson ou à la place de Mishkov. » Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux réussir à t'avancer au 5e rang en utilisant le 7 et le 13. Je pense que... Je suis pas mal sûr que ce serait le cas. Surtout parce qu'il y a, après, les 4 premiers, une multitude d'espoir qu'on pourrait très, très bien placer, selon le standard d'une équipe ou d'une autre, entre le 5e puis peut-être le 12e rang. Alors, tu offres le 7, tu offres le 13. C'est sûr que l'équipe qui offrirait, par exemple, le 5e choix, se dirait sûrement, ben je vais avoir la possibilité d'aller chercher quand même le joueur qui m'intéresse et un choix de plus si je vais chercher deux choix. Donc, ce serait très agressif de la part du Canadien de faire ça. Mais on ne peut pas espérer ni Bédard ni Fantilli, je pense, en combinant les deux choix. Là.
Non. Non, c'est ça. Puis honnêtement, le scénario que tu viens de décrire, ça me surprendrait qu'il ferait ça. Parce qu'effectivement, quand tu te rends dans une zone du repêchage où tu peux avoir tes préférences, puis honnêtement, si le Canadien trouve qu'il y a quelqu'un dans la deuxième portion, le deuxième groupe, ou peut-être même le troisième groupe, je devrais dire, parce que Bédard est dans un groupe tout seul, là, puis après, il y a un autre groupe, puis après, il y a un autre groupe. S'il y a un joueur là-dedans qui les intéresse à ce point-là, peut-être, mais ça me surprendrait qu'il sacrifierait un choix, un 13e choix overall, pour avancer deux rangs dans le repêchage quand il détient déjà le 7e choix. C'est ça que ça coûterait, t'as raison, mais ça me surprendrait de voir le Canadien faire ça.
Ouais. Ben écoute, si c'est le 4e choix, je sais pas, mais tu sais, Mishkov, si le Canadien était très high sur Mishkov, ça pourrait être intéressant, mais je vois pas une équipe, n'importe quelle équipe, sacrifier deux choix de première ronde pour un gars qui a un aussi gros point d'interrogation. Alors si une équipe qui est emballée, qu'il repêche 3e, que Carlson est encore disponible au 4e rang, puis que dans l'évaluation du Canadien, ce gars-là, il y a une grosse démarcation entre Carlson puis les autres qui suivent. Mmh. Peut-être, mais la logique, normalement, c'est de dire, ben, quand tu as un bon bassin d'espoir qui est disponible, puis que le repêchage peut aller dans plusieurs directions, ben, tu gardes deux choix, puis tu essaies de doubler tes chances d'aller chercher un joueur d'impact.
Oui, effectivement. Donc, bon, on va passer à notre deuxième appel. Ben, écoutons-le.
Alors, en français, bonjour monsieur, c'est Alex T. Question sur le plafond salarial. Il me semble que les équipes en Floride, au Texas, Vegas et peut-être deux, trois autres places ont un avantage qui est injuste concernant le fait qu'il n'y a pas de taxes sur le salaire. Alors, quand Pacioretty a signé à Vegas, ça a été pointé que s'il aurait eu pour avoir le même argent à la fin de la journée, ça aurait été beaucoup plus pour qu'il soit payé la même chose s'il aurait resté à Montréal. Sans entrer trop dans des légalités que j'imagine est très complexe, est-ce que vous savez si la Ligue considère peut-être regarder ceci? Il me semble que ça serait beaucoup plus juste comme ça. Merci. Continue le bon travail.
Merci, Alex. Merci pour la question. C'est très pertinent comme question, surtout sachant que le Canadien de Montréal, les joueurs du Canadien de Montréal sont les joueurs les plus taxés à travers la Ligue nationale. On parle d'un taux d'imposition qui est supérieur à 51%, entre 51 et 52%. Donc, c'est sûr que ça fait une différence par rapport à d'autres équipes. Vous mentionniez donc les marchés de Floride, Nashville, Texas. Il faut comprendre, c'est pas des joueurs qui ne paient aucun impôt. L'impôt fédéral américain existe pareil. C'est l'impôt d'État qui ne vient pas s'ajouter par-dessus. Donc, on parle quand même là, pour les équipes qui jouent, les joueurs qui jouent dans les équipes américaines, là, d'un taux d'imposition de 38%. La marge est énorme. Plus tu gagnes cher, plus tu le ressens évidemment dans ton portefeuille. Puis oui, ça a une influence sur la volonté des joueurs de venir ou de ne pas vouloir venir jouer à Montréal. Cela étant dit, deux affaires. La première, c'est que il n'y a aucun intérêt de la part de la Ligue nationale, de Gary Bettman, de vouloir corriger cette iniquité-là. Parce que au bureau du commissaire, ce qu'on dit, c'est on se mettra pas à... C'est un facteur qui milite en faveur de certaines équipes, le taux d'imposition. Par contre, il y a d'autres équipes où ils sont soutenus par une base d'amateurs extraordinaire. Et puis, si tu compares ça, par exemple, dans un marché où fiscalement parlant, c'est intéressant, mais il n'y a personne qui va à l'aréna, ben c'est des facteurs qui ne valent pas, mais qui rentrent en ligne de compte. La météo est un facteur qui va rentrer en ligne de compte. Tout un tas d'infrastructures aussi, où il y a une panoplie de raisons qui peuvent permettre aux joueurs d'évaluer, savoir si telle destination est meilleure que telle autre. Donc, l'aspect fiscal est une partie, mais sauf que ce que la Ligue fait valoir, c'est de dire ben, les joueurs peuvent considérer cet élément-là, mais ce n'est pas le seul. Alors, on ne se mettra pas à vouloir mettre un coefficient puis ajuster le plafond salarial en fonction des réalités fiscales. Donc, ça, c'est... Gary Bettman a mis le couvercle là-dessus à plusieurs reprises. L'autre affaire, c'est que les équipes... Ben, une équipe comme le Canadien peut diriger les comptables des joueurs vers différents mécanismes qui leur permettraient de réduire leur taux d'imposition. Puis le principal mécanisme qui existe, ça s'appelle la convention de retraite. Puis ça, la convention de retraite, ce que ça fait, c'est que ça permet à un joueur qui peut démontrer qu'il ne reste et qu'il ne va plus habiter au Canada quand il ne jouera plus pour une équipe canadienne, il peut placer à ce moment-là 50% de son salaire dans une fiducie. Puis quand il va avoir pris sa retraite, bien, il va pouvoir sortir cet argent-là puis payer un taux d'imposition régulier qui va être de 25%. Donc, c'est un taux qui est avantageux, mais en plus, bien, pendant des années, cet argent-là va être appelé à fructifier dans ce compte-là en fiducie. Donc, tu sais, il y a des joueurs, il y a plusieurs joueurs qui ont déjà ce genre d'organisation-là. Je ne les nommerai pas, mais bon, c'est quelque chose qui existe, qui est encore un peu méconnu, mais si la convention de retraite était quelque chose qui était poussé davantage auprès des joueurs, bien, peut-être qu'ils réaliseraient que finalement, il y a différents mécanismes comptables qui leur permettraient de baisser leur taux d'imposition pour peut-être pas arriver au niveau de la Floride puis du Texas, mais à tout le moins de rendre le Canadien beaucoup plus compétitif à ce niveau-là.
Oui, et juste pour rajouter le liste des équipes qui bénéficient de cette... Il y a les deux équipes en Floride. Il y a l'équipe en Texas, les Stars de Dallas. Il y a aussi les Predators de Nashville. Il y a le Kraken de Seattle qui vient d'ajouter à cette liste-là. Puis, si je ne me trompe pas, il y a les Golden Knights de Vegas. Mais à part ça, c'est, tout le monde a un certain impôt à payer au niveau de l'État. Puis l'autre chose à se rappeler, c'est que c'est tellement compliqué de préparer les impôts des joueurs parce que il faut que tu prends en compte comment où ils jouent leur match. Alors, les matchs sur la route doivent être comptabilisés aussi, là. Alors, c'est trop compliqué pour expliquer maintenant, mais c'est pas aussi simple que aller chez H&R Block puis soumettre leur truc puis that's it, là. C'est plus compliqué que ça.
Oui, absolument. Ça, c'est le truc dont je vais vous parler, la convention de retraite. C'est surtout des joueurs américains puis européens qui vont prendre ça. Mais il y a quand même des joueurs canadiens, des fois, qui se sont. Qui s'organisent pour aller vivre à l'extérieur du Canada après leur retraite. C'est un mécanisme qui est assez fréquent. Mais le bottom line, à mon sens, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Arpin, c'est que c'est pas sur ce front-là que le Canadien peut convaincre les joueurs de venir jouer à Montréal. Quand tu regardes une équipe, les Rangers de New York étaient en visite jeudi soir au Centre Bell. C'est une équipe, New York, c'est quand même un endroit où on paye 43% d'impôts. C'est pas un endroit qui est exempt d'impôts étatiques, mais tout le monde veut aller jouer là. Les joueurs sont attirés par le marché de New York et il faut que le Canadien de Montréal se devienne par ce qu'il est, par ce qu'il offre, par ses performances. Il faut qu'ils deviennent un endroit séduisant comme les Rangers de New York le sont. Puis je pense que c'est à ce niveau-là, et pas du tout au point de vue fiscal, mais c'est à ce niveau-là que le Canadien va pouvoir vraiment faire de plus gros gains. C'est réussir à montrer que hey, c'est excitant d'aller jouer à Montréal, puis c'est un endroit où on veut être. C'est un énorme défi, mais je pense que c'est en même temps, je pense que c'est le challenge qui est devant Jeff Gorton puis Kent Hughes, à mon avis. Je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, non, effectivement, puis c'est ça que, écoute, c'est ça que Jeff Gorton en a parlé déjà, Kent Hughes en a parlé dès qu'il a été engagé comme DG. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose, je trouve que c'est une excuse. Tu sais, les joueurs aiment aller jouer à Chicago, par exemple, aiment aller jouer à New York. New York a un impôt, il faut payer de l'impôt, c'est imposé par la ville de New York. Même pas, il y a un impôt au niveau de l'État, mais il y a même une taxe qu'il faut payer pour habiter à New York comme ville.
Oui.
Alors, puis tu penses à Philippe Dano, qui est allé à Los Angeles, c'était la même situation en termes d'impôts à Los Angeles que qu'ici. Alors c'est ça. C'est le Canadien doit rendre leur marque de commerce attirant aux joueurs. C'est aussi simple que ça.
Absolument. Fait que quand on voit, tu sais, on a beaucoup parlé de Pierre-Luc Dubois dans les derniers mois, puis les rumeurs, je suis sûr que la rumeur va refaire surface durant l'été. Mais si jamais un jour ça se concrétise, on pourra se dire, voici un joueur de premier plan qui se dit, moi, c'est là que je veux aller jouer, puis qui s'arrange finalement pour que ça se produise de la même manière que Artemi Panarin puis Patrick Kane se sont arrangés pour se ramasser avec les Rangers de New York. Adam Fox aussi. Ben, tu sais, si un jour vous voyez Pierre-Luc Dubois dans l'organisation du Canadien, je pense que ça va peut-être donner un signal en ce sens-là. C'est plus facile pour les joueurs québécois, je pense, d'avoir envie de venir. Ils ont peut-être des motivations supplémentaires. Mais si ça se répercute chez d'autres types de joueurs vedettes provenant d'ailleurs, ben, ce serait tout un succès. Mais évidemment, dans la situation dans laquelle le Canadien se trouve présentement, allant un de sa reconstruction puis assez loin au classement, on est loin du compte encore là. Alors, ben merci tout le monde d'avoir écouté encore cette semaine le Super Athlétique. On vous retrouve lundi pour The Athletic Support. Et puis, ben bon week-end, Arpin.
Bon week-end tout le monde. Merci.